J'invite notre frère à apporter ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Est-ce que c'est juste que quand vous vous réunissez dans les bâtiments de l'Église réformée?
Oui.
Et c'est le dimanche matin?
Oui.
C'est à 10 heures?
Oui.
Et ça dure combien de temps?
Oh, jusqu'à 11h30.
11h30? Vous prenez un repas des fois après?
Des fois.
Des oui. fois aussi, comme nous.
Des fois pendant.
Ouais. Je vois, oui. Comment tu fais pour jongler entre ton ministère dans un home et puis ton pastorat?
Il y a le scooter qui m'aide beaucoup.
Le scooter aide beaucoup. Vous avez 3 enfants?
Deux,
d'accord.
Lydia et Anne.
D'accord. Est-ce que c'est juste, vous avez un thème cette année, c'est croiser, multiplier?
Voilà, ça y est, on a pris le texte de la Genèse qui dit « Croissez, multipliez, remplissez la terre », puis le texte du Nouveau Testament qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est un petit peu deux textes comme qui sont en vis-à-vis dans l'Ancien puis dans le Nouveau Testament.
Ah oui, oui. Deux thématiques qui se croisent. Cette communauté se réunit là-bas depuis très longtemps? Est-ce qu'on sait depuis quand l'Église se réunit dans ces locaux là-bas?
7 ans.
7 ans. D'accord. Et avant, vous étiez où?
Au Petit Rocher.
Au Petit Rocher. Pour les Lausannois, vous savez où c'est, le Petit Rocher?
Bon. Chaudron, oui.
Chaudron.
Près de
Chaudron. D'accord. Et avant, au Club Alpin. Et cette communauté, elle a commencé à prendre forme à peu près dans quelle année?
1942.
42. J'étais pas encore né.
Moi non plus.
Voilà. Le Seigneur t'accompagne, te bénisse et qu'il le...
Merci. J'espère que ça... Ah, voilà. OK.
Voilà, ça marche.
Ah non, il n'y a pas besoin de ça, ou bien... Non, c'est bon, hein? Hop. Voilà. Voilà. C'est automatique. Si vous arrivez à retenir ça aujourd'hui, c'est automatique, vous avez tout compris. Je le laisse encore un petit moment, c'est automatique. Le hasard fait que derrière, il y a une montre qui est une Longines. Ma femme vient un petit peu de ses contrées par là-bas, je n'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est une Longines qui vient des Longines, voilà. Automatique. Je vous propose ce matin de lire deux textes en introduction. Le premier, on le trouve dans Marc 4, les versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et puis un deuxième texte qu'on trouve dans Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites... son esprit et vie. Jésus a souvent utilisé des comparaisons tirées de la nature, du monde agricole. C'était son contexte à lui. Peut-être que nous, dans notre contexte à nous, on va utiliser des paraboles tirées de l'industrie, de l'agroalimentaire, des loisirs ou que sais-je. Mais toujours est-il que Jésus, lui, l'utilisait des images qui étaient proches de ce que les gens connaissaient à son époque. Les lys des champs, les semences, la semence qui croît toute seule, le développement de la graine de moutarde, les 4 terrains, l'arbre et ses fruits, les semailles et les récoltes, les oiseaux. Tout ça, ça faisait partie du quotidien des gens que Jésus côtoyait. Il saisissait, il comprenait tout de suite de quoi Jésus voulait leur parler. Et quand Jésus utilise des explications tirées de la nature ou des images ou des paraboles, cela veut dire qu'il y a des choses à apprendre de la nature, que l'on peut s'inspirer de la création, que regarder à la création, c'est aussi regarder à ce que Dieu fait. Et puis à droite, j'ai mis des exemples, comme une biche, comme un arbre, comme une poule, comme l'éclair, comme un enfant, comme les anges, comme le grain, comme un père, comme une colombe, etc. Il y a plein d'images comme ça dont Jésus s'est servi pour expliquer, pour arriver à expliquer des choses peut-être complexes d'une manière simple. Un exemple, c'est par exemple encore Matthieu 6, 28. « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Observez, voyez comment croissent les lys. En grec, katamatete, qui signifie « apprenez, examinez, étudiez, regardez, attardez-vous sur ces choses. » Alors la tentation, quand on regarde des lys des champs, ben, c'est de s'attarder sur leur beauté, sur leur finesse, etc. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Nous attarder sur la beauté, non sur leur mécanisme de croissance. Regardez comment croissent les lys des champs. Alors, comment est-ce qu'ils poussent, les lys, dans les champs ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Moi, j'ai été regarder un petit peu sur Internet, parce que je ne suis pas un spécialiste des lys, mais quand même, puisqu'on nous dit d'observer les lys des champs, j'essaye de prendre ce que j'ai apporté. Le lys est une fleur que l'on peut planter en mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre. C'est-à-dire, on peut presque le planter à tous les moments, quoi. Ensuite, c'est une plante qui aime presque tous les sols, même ceux qui sont calcaires. Ensuite, il faut les planter avec 15 cm de distance minimum entre les bulbes. Quant à savoir comment ils poussent, ben il semblerait qu'à première vue, ils poussent tout seuls. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer dans la nature. Il n'y a personne avec une manivelle qui essaye de les faire monter ou de les faire descendre. Ils poussent tout seuls, les lys des champs. En fait, un lys des champs, comme tout être vivant, il a en lui-même la capacité d'engendrer et de perpétuer la vie. C'est ce qu'on appelle en écologie le potentiel biotique. La capacité inhérente d'un organisme ou d'une espèce à se multiplier et à se reproduire. C'est un principe que Dieu a mis dans sa création. Et aucune machine que nous pouvons fabriquer n'a la capacité de se reproduire d'elle-même. Vous prenez une cafetière, vous lui mettez une lumière chaude dessus ou je ne sais pas quoi, elle ne va pas se reproduire, elle va rester cafetière. Mais tout ce qui est de l'ordre du vivant, un grain de blé par exemple, eh bien, produira des grains de blé qui à leur tour produiront des grains de blé et ça ne s'arrête plus. Une fois que la vie est lancée, elle ne s'arrête plus. Et c'est le secret de toute vie, le principe divin de la création. Dieu a créé les êtres vivants avec la capacité inhérente à engendrer et à perpétuer la vie. Et dans ce processus, l'homme ne peut ni forcer, ni fabriquer la multiplication. Tout ce qu'il peut faire, c'est agir sur ce qui favorise ou empêche la fabrication ou la croissance. On peut mettre un chapeau sur la plante, la priver de soleil, et puis elle va mourir. Ou au contraire, on peut l'arroser, puis ça va l'aider à croître. Quant à la faire pousser en elle-même, on n'a pas les moyens d'agir sur ce processus-là. C'est ce qu'on appelle la vie, le processus de vie. Et ce même principe est valable pour tout être vivant. Et à ce propos, l'Église est un être vivant aussi. Nous sommes des êtres vivants et l'Église, en tant que corps de Christ, est aussi un organisme vivant avec des principes de vie inhérents à cet organisme. Revenons à notre texte, verset 28. « La terre produit d'elle-même. Oh, la terre produit d'elle-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, produire d'elle-même ? Le secret de la terre, c'est qu'elle a en elle-même la vie, des graines, des plantes potentielles qui sont prêtes à croître. Et tout ce qu'elles attendent, tout ce qu'ils attendent, ces organismes, c'est que ces automatismes se mettent en marche. C'est que cette vie, elle puisse être initiée, elle puisse être démarrée, elle puisse être commencée. Et à cet égard, eh bien, la tâche de l'homme, une fois que cette vie a été entamée, une fois que cette graine a commencé à croître, eh bien, il va soit la semer, soit la moissonner, soit la désherber, soit en prendre soin. Mais ce qu'il ne pourra pas faire, eh bien, c'est la faire pousser ou la faire croître. Parce que ça, ça ne dépend pas de lui. C'est la vie qui est déjà contenue dans la plante qui va s'en charger. Alors, cette expression mystérieuse, « la terre produit d'elle-même », ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Pascal, par exemple, disait « la nature s'imite, une graine jetée en bonne terre produit, un principe jeté dans un bon esprit produit ». Vous voyez qu'il y a des analogies comme ça entre la création, et les choses qui se passent dans la terre ou dans la campagne, ou ce qui peut se passer dans nos esprits. La terre produit d'elle-même. D'elle-même est traduit dans le grec par « automate », qui veut dire « automatiquement ». On fait le lien avec le début. C'est automatique, « automate ». À l'époque de Jésus, ce mot voulait dire simplement « sans cause apparente ». Le lys y pousse, mais sans cause apparente. On ne sait pas comment il fait. On sait que voilà, il est planté là. Des fois, quand il pleut un peu, ben, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais en lui-même, on ne sait pas comment il fait pour pousser. Et pour les Juifs, cela voulait dire que c'est Dieu lui-même qui accomplit. C'est Dieu qui est derrière chacun des lys pour le faire pousser. Et donc, un automatisme, spirituellement parlant, on pourrait parler de théomatisme, c'est-à-dire une action qui est programmée par Dieu lui-même. Alors, nous sommes en face d'un principe naturel qui dit « Dieu a créé les êtres vivants avec la capacité inhérente à engendrer et à perpétuer la vie ». Et donc, notre rôle, c'est d'utiliser ce processus de le favoriser, d'en tenir compte, afin qu'il puisse se manifester pleinement. Dans l'Église, on peut, par exemple, empêcher ce processus de vie, empêcher la croissance, empêcher la multiplication. Eh bien, par exemple, Jésus dira « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Quand on s'engage dans un processus d'opposition à ce que fait Dieu dans ma vie ou de ce que fait Dieu dans l'Église, alors je mets une entrave à ce processus de vie. Jésus dira encore, celui qui n'assemble pas disperse. Si je suis plutôt de ceux qui ont tendance à disperser, à semer la zizanie, etc., je ne suis pas un vecteur de vie, je ne suis pas quelqu'un qui suis en train de construire. Je suis plutôt quelqu'un qui suis en train de détruire. Par contre, je peux être un agent qui aide la vie à prendre son essor dans ma communauté, dans ma vie, là où je suis. Il y a un très beau texte dans Ésaïe 40 qui dit « Ouvrez un chemin pour le Seigneur ». Ce texte, en fait, il fait référence à la pratique qui était la suivante quand il y a une personnalité devait visiter la province ou devait visiter une ville, etc., on envoyait des éclaireurs devant qui étaient chargés ben justement de réparer les ponts, de voir là où les chemins avaient été détruits, de corriger, de faire en sorte eh bien, que cet émissaire puisse passer en toute sécurité et atteindre les villes ou les lieux dans lesquels il devait se rendre. Et donc ce texte nous dit « Ouvrez un chemin pour le Seigneur dans le lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu, remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors, la gloire du Seigneur paraîtra, et tous les habitants de la terre la verront. » Voilà l'ordre du Seigneur. Et quelque part, notre rôle en tant que chrétien, eh bien, c'est justement de favoriser cette vie, de favoriser la venue, de favoriser l'apparition de notre Seigneur là où nous sommes, là où nous travaillons, dans notre famille, etc., etc. Nous sommes, notre rôle, c'est de favoriser cette vie qui est déjà là. La vie, elle est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà en nous. Il est déjà actif. Mais nous devons aussi le laisser paraître. Alors là, j'ai mis... Oups. Quand on enlève tout ce qui peut entraver et empêcher la vie, alors j'ai mis des chaînes, la mort, des obstacles, des hauteurs, etc. Eh bien... Oups. Quand on peut ajouter tout ce qui peut favoriser la vie, j'ai mis la prière, j'ai mis enfin plein de choses, quoi. Eh bien, la vie se développe sans entrave. Et quelque part, notre rôle en tant que chrétien, c'est celui-là. C'est simplement de favoriser ce qui est déjà là. Je ne dois pas fabriquer l'Évangile, je ne dois pas fabriquer l'action de l'Esprit dans ma vie, je dois juste lui donner un débouché, juste enlever tout ce qui ferait obstacle à cette vie et à cette réalité pour qu'elle puisse se manifester. Par exemple, des sacs de grains entassés dans un hangar, eh ben, c'est des sacs de grains qui sont entravés. Ils ne peuvent pas pousser. Pourtant, ils sont bourrés de vie. Hein, Jésus dit qu'un seul grain peut produire 30, 60, voire même 100 grains. Vous vous rendez compte? Un aller à 100, c'est colossal comme rapport. Mais si on le laisse dans les sacs, ben, ils sont là. C'est de la vie, potentiellement, mais elle ne produit rien, cette vie. Par contre, quand un semeur intervient, alors la gloire du Seigneur paraît et tous les habitants de la terre la voient. Un beau champ de blé qui pousse au soleil. C'est beau, non? Alors, notre communauté, notre église, elle peut être un grand hangar de sacs de blé, bourré de vie, bourré de protéines, de gluten, de tout ce qu'on veut, et qui potentiellement pourrait produire 100 fois plus que ce qu'il y a dans le hangar. Ou alors, ça peut être un champ. Un champ qui est à l'extérieur, qui est au soleil, qui produit, qui vit. À gauche, la vie a déjà fait son œuvre. À droite, la vie peut encore faire son œuvre. Et je voulais laisser un petit témoignage que j'ai lu, témoignage de Charles. Moi, l'antichrétien, j'ai rencontré Jésus il y a quelques années. Il aurait été parfaitement impensable que j'écrive dans un journal autre chose qu'une lettre de vive calomnie à l'égard de l'Église catholique et de la foi chrétienne. Car il y a 2 ans, j'ai fait une rencontre avec Jésus qui a radicalement changé ma vie. Si je témoigne aujourd'hui, ce n'est plus pour discréditer le christianisme, mais pour encourager chacun du mieux possible dans le chemin à la suite de Jésus. Je suis issu d'une famille pas vraiment chrétienne, puisque mon père est athée et anticlérical, mais ma mère avait tenu à ce que nous ayons une éducation catholique. J'ai eu donc droit au catéchisme, à la messe du dimanche, ainsi qu'au sacrement du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Dès l'âge de 12-13 ans, je me suis détourné de la foi chrétienne, lorsque je me suis un peu plus tard remis en quête de spiritualité, c'est vers le bouddhisme, le chamanisme amérindien, ainsi que toute autre sorte de spiritualité que je me suis tourné. À 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, ce qui fut le coup de grâce pour le peu de foi qui me restait. Tout ceci non pas dans le but de raconter ma vie, mais pour expliquer qu'il fallait bien un miracle pour me reconduire vers le christianisme que je considérais comme une subsistance de superstition moyenâgeuse en vue de disparition. Ce que je ne savais pas, c'est que comme saint Paul l'écrit dans une de ses lettres, l'évangile de Jésus, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il y a un an et demi, des amis de ma mère, qu'elle avait rencontrés dans un groupe de prière, sont venus chez moi et se sont mis à me prêcher l'évangile d'une manière qui m'a paru très maladroite. Mais gardons-nous de juger trop vite ce genre de manière de témoigner. Quand je vois ce qui s'est passé ensuite et qui a changé totalement ma vie. Bref, ils m'ont proposé de prier pour moi, ce que j'ai laissé faire, à la fois curieux et sceptique. À peine cela avait-il commencé que je me suis senti visité par une puissance de vie et d'amour telle qu'ayant peur de fondre en larmes devant eux, je suis parti. Ensuite, je suis allé à leur réunion de prière où j'ai vu à l'œuvre ce qui est annoncé dans les évangiles. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est bien ainsi que j'ai ressenti très fort la présence de Dieu. Après un long chemin de conversion de 6 mois, je suis donc redevenu chrétien et réconcilié avec l'Église catholique. Voici donc le témoignage de ma foi et de ce que j'ai vécu. De même que saint Paul écrit dans une de ses lettres, « Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ma foi repose sur l'action que Dieu a faite dans ma vie et chez ceux que j'ai vus transformer intérieurement et physiquement par sa grâce. » Voilà un exemple de vie qui a pu être réamorcée en quelque sorte et qui a pu porter du fruit. Et pour conclure, je voulais juste donner peut-être un petit témoignage concernant Bethel. Vous savez qu'à Bethel, il y a beaucoup de personnes qui sont en désespérance, en maladie psychique, en situation difficile, en dépression, etc. Et souvent, ces gens, ils n'ont plus grand-chose qui les maintient à la vie. Il y en a même qui se promènent avec leur potion dans la poche pour dire le jour où vraiment j'en peux plus et je ne supporte plus cette vie, gloups, je la bois et puis c'est fini, quoi, pour dire souvent où ils en sont. Et souvent, ces personnes, elles ont simplement besoin que cette vie soit plantée, soit réactivée en quelque sorte. Et je me souviens d'une personne, par exemple, qui est venue me trouver, qui m'a dit, voilà, ça fait 30 ans que je suis dépressive, que j'en peux plus, est-ce que vous pouvez juste prier pour moi? Puis j'ai dit, oui, je vais prier pour vous. Alors on a prié, j'ai prié pas très longuement, puis après elle m'a dit, ah, merci, ça m'a fait tellement de bien qu'on prie pour moi. Puis elle est sortie, et elle était souriante, et quelque part j'ai vu eh bien, qu'elle avait aussi renoué un petit peu avec cette vie qui était déjà là, une femme catholique, mais parfois on perd pied parce qu'on n'a plus les frères et sœurs, on n'a plus la communauté, on n'a plus des gens autour de nous, et cette vie, elle n'est plus nourrie, elle n'est plus arrosée, elle n'est plus éclairée. Alors, pour conclure encore une fois, si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans des états de solitude, de désespérance et autres, invitez-les, parlez-leur. Il y a une vie qui est puissante dans l'Évangile. Et il suffit de la semer et de la laisser agir. Arrosez-la, éclairez-la, faites ce que vous voulez, mais ensemencez les personnes. Et le reste, vous le verrez, ça pousse tout seul. C'est automatique. Voilà, amen. Merci pour votre attention.